pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fadman à la technique. Oui, c'est jeudi, donc en première partie d'émission, Myriam Larache sera avec nous pour parler de tennis à Miami. Qualification mondiale de foot, soccer pour les autres, l'équipe féminine de foot aussi, et puis du basket, un peu de basket aussi. Voilà, j'ai bien hâte de l'entendre nous découvrir la nouveauté qu'il y a au niveau du basket. Parce que le basket, oui, on n'a pas de fédération ici, ou bien c'est pas de quoi d'équipe de Montréal qui nous représente quelque part. Peut-être que c'est ce qu'elle va nous annoncer. Là, je laisse le suspense. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Alain Lefebvre, pianiste-compositeur, qui va faire une interprétation du concerto de Québec d'André Mathieu avec l'orchestre philharmonique et chœur des mélomanes OPCM. Voilà, c'est comme ça à 17h30 avec Alain Lefebvre et tout de suite à 17h, après la première pièce musicale, ouais, avec Myriam Larache. On va en musique. Avec qui? Christopher Martin. Baby, I love you.
Baby, like a waterfall, I'd keep you coming down. See your reflection in the sky and see how beautiful you are. And then I'd lay you on a cloud and make love to the sound. Turn your sea into an ocean. Yo, what you stop it for? No, me call about that. Yeah, cool. Start it back.
If you think I don't love you enough, if you think that I've lost my touch, I miss I'm in love you, baby. Love you, baby. Baby, I love you, my darling.
Every evening when I come
Christopher Martin, Baby I Love You. Voilà, comme je disais, Myriam l'arrachait déjà au bout du fil. Là, c'est le sport, le sport, le sport, le sport, le sport. Bonjour Myriam.
Bonjour Fulgence et bonjour à tous nos auditeurs. Est-ce que ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Moi, il ne fait pas froid aujourd'hui, même s'il y a la petite pluie qui dérange un peu, mais il faut bien prendre son petit...
Fait sombre et gris.
Voilà, mais il ne fait pas froid. Voilà, 9 degrés, 9 degrés par là, on se plaint pas. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme recette aujourd'hui? Recette sportive.
Exact. Alors aujourd'hui, on va passer tout de suite au tournoi de Miami qui voit la fin déjà. Hein. Il est déjà en demi-finale pour les dames, en quart de finale pour les hommes. Alors nous sommes vers la fin donc de ce second Masters 1000 de l'année, le deuxième sur le sol américain.
Oui.
Alors chez les hommes, il ne reste plus qu'un seul du top 10.
Qui est celui-là, ce chanceux?
Ce chanceux, c'est le Norvégien Casper Ruud.
Oh oui.
J'ai vu hier d'ailleurs faire tomber le numéro 4 mondial Alexander Zverev, l'Allemand. L'Allemand était un peu dérangé par une blessure dans le cou avec un gros pansement. Il a mené donc la première ronde bien comme il faut, Casper Ruud. Ensuite, il a chuté à son tour parce qu'il a eu des grosses cloques dans les doigts de pied.
Oui.
Donc l'autre est remonté, il a gagné la deuxième manche, mais il est revenu fort comme à la première et il l'a éliminé. Sachez que cet après-midi, il y a à peine une heure, c'est Hubert Hurkacz, le Polonais, 11e au monde, qui a éliminé le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev. Donc il ne reprendra pas la première place comme c'était attendu lundi matin.
Je le lui souhaitais en tout cas, je croyais qu'il allait arriver.
Il fallait qu'il passe en demi-finale. Hein. Il n'est pas passé en demi-finale. Alors, l'Espagnol, le prodige, Carlos Alcaraz, numéro 15, tombeur du grec Stefanos Tsitsipas. Fulgence, c'était le match.
Le match des matchs. Tsitsipas, là, vraiment, il évolue. Hein.
Il évolue drôlement, puis il évolue pas bien en ce moment, il faut le dire. Hein. C'est pas ça, c'est, en ce moment, il perd souvent en quart de finale, il sort rapidement. Je sais pas, il a peut-être des problèmes qu'on ne sait pas, mais il n'y arrive pas. Hein. Il n'arrive pas d'abord, il faut le savoir, il n'a jamais gagné le top 1, 2, 3. Hein.
Oui.
Tsitsipas, il n'y arrive pas. Et il n'arrive pas à atteindre ce qu'il voudrait, atteindre le top 3, le top 4.
Oui, ça dépend.
Il a les qualités.
Oui, il a les qualités, mais peut-être que ça dépend de l'entourage, du sérieux qu'il y met aussi durant sa préparation.
Oui. Écoute, le Carlos Alcaraz, Fulgence, il l'a dominé. Il lui a donné une leçon de tennis. Écoute, ce que j'ai vu là, j'ai dit, voyons, c'est-tu de Stefanos Tsitsipas qui est là, sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe?
Wow.
Ce que j'ai vu là, c'est impressionnant. Alors, ensuite, l'Argentin qui sort de nulle part, 105e mondial, il est lui aussi en quart de finale. Il est en demi-finale, Francisco Cerundolo. Il faut savoir que l'Italien Yannick Sinner a abandonné en plein milieu du match. Alors, il a cette chance, ce 105e mondial, de se retrouver dans le carré d'as, figure-toi. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'abandon dans ce tournoi de Miami. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il parle beaucoup.
Myriam. Myriam.
Mais je vais te le dire.
Ouais, le physique ne peut pas toujours faire avec.
Ce n'est pas le physique.
Toi et moi, on en a parlé déjà ici à plusieurs reprises.
Oui, mais cette fois, ce n'est pas le physique.
Oui.
C'est souvent le mental.
Le mental
des joueurs est épuisé. Pourquoi? À cause de la pandémie. Il y a beaucoup de protocoles à faire pour entrer dans les pays. Beaucoup de restrictions à suivre. Beaucoup de discipline. Beaucoup de choses qui, mentalement, ces jeunes, ils n'y arrivent pas. Ça les détruit, mentalement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y en a beaucoup. La guerre en Ukraine. Alors, tout ça joue beaucoup sur les Russes, sur les Ukrainiens, bien sûr, en premier, mais sur les Russes aussi, hein, ça joue.
Oui.
Sur beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on ne voit plus de Rublev, qu'on ne voit plein de Zabalenka, la Biélorusse. On ne la voit pas. Azarenka, qui a décidé d'abandonner, elle aussi, en plein milieu du match. Badosa, l'Espagnole, elle, c'est mentalement, elle a dit, elle est fatiguée, il lui faut un peu de repos. Elle n'en peut plus, elle a abandonné.
Oui.
Écoute, ça se peut plus, là. Ils abandonnent comme ça, en plein milieu des matchs, puis ils disent, ça y est, je rentre.
Oui.
Je rentre à la maison, je vais me reposer 3-4 semaines.
Okay. Il faut reconnaître au moins, il faut l'admettre. Hein, si les gens arrivent à dire, bon, stop, j'arrête là parce que je ne peux plus, tant mieux pour eux. Ceux qui n'arrêtent pas, qui ne veulent pas reconnaître et puis ils veulent forcer, après c'est comme l'autre là, comment il s'appelle, Strazenka, le Suisse là, qui est revenu après un an de repos, qui a été battu à son premier match lui aussi. Et ça se
Et lui, il était blessé aussi beaucoup
Voilà.
Mais justement, la mentalité de Wawrinka, des Federer, des Djokovic n'est pas la même que ces jeunes. Ces jeunes n'ont pas honte de dire, écoute, j'en peux plus, je m'arrête.
Oui, c'est vrai.
C'est la différence de cette mentalité que les autres n'avaient pas, qu'ils allaient au bout de leur force physiquement, les autres, puis se blesser, ceux-là, et quand même dans la tête ça va pas, ils disent, je m'arrête, je vais m'arrêter 3-4 secondes.
C'est
tu vois cette
ça.
Mentalité de la jeunesse qui arrive, c'est ça. Alors, la surprise, par contre, chez les dames, ben, c'est notre fameuse qui était à son tour pas bien la semaine dernière, ou dans le tournoi d'avant, c'est notre japonaise Naomi Osaka qui joue en ce moment, pendant que je vous parle, sa demi-finale contre la Suissesse Belinda Bencic. Alors, Bencic a gagné la première manche, la japonaise est revenue de plus belle pour gagner la deuxième et elles sont en train d'en découdre toutes les deux pour la troisième manche, en ce moment même, en direct.
Ouais, ouais.
Ceux qui veulent passer à la télé après.
Alors, que la meilleure gagne.
Exact. L'américaine Jessica Pegula, donc au carré d'as aussi, par l'abandon de l'espagnole, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Paula Badosa, et qui va se retrouver ce soir, donc face à Iga Świątek, la future numéro 1 mondiale dès lundi matin, qui est au sommet du tennis mondial féminin à partir de lundi, après, rappelons-le, la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty.
Ouais.
Alors,
on lui dit bravo.
Bravo,
ouais.
À Iga, qui est très jeune encore celle-là. Hein.
C'est ça.
Peut-être qu'elle aussi, à un moment donné, elle va nous dire j'arrête, puis je me repose.
Ça ne me surprendra pas. Il n'y a, oui, a pas de constance. Y a pas, bon, les gens brillent, la nouvelle génération, ça brille un, deux matchs, oui, après c'est fini, et puis bon, ben, ça accroche.
Exact.
Et puis, bon, ben, voilà.
Ça ne leur crée pas beaucoup de problèmes, on le voit, ça.
Voilà.
De dire je m'arrête, puis je m'en vais, je reviens dans deux, trois semaines, trois mois, un mois.
C'est ça.
Alors, soccer maintenant, qualification du mondial. Je sais que tu as beaucoup parlé de la grande fête pour nous du foot avec, après 36 ans, la qualification du Canada dimanche, qui n'a pas été faite jeudi comme je vous avais parlé jeudi dernier.
Oui.
Jeudi soir, ils sont partis perdre au Costa Rica. Ils n'étaient pas en forme. Ils sont revenus dimanche pour le faire, au fait, devant chez eux. C'est encore mieux, à Toronto.
Oui.
Ils sont tête de file de leur groupe avec 28 points. Donc, c'est formidable. Mais demain, ce qu'il faut surveiller, demain, c'est le tirage, Fulgence, des groupes. Alors demain, c'est très important, c'est en direct à partir de 11h30, car c'est à 18h à Doha, au Qatar.
Attends, Myriam, les 5 places, hier je parlais de 5 places à offrir qui restaient encore, tout est booké maintenant?
Non, il reste 3 places,
oui.
3 places maintenant. Hier, 5 places, mais après les matchs de la soirée, ça y est.
Oui.
Mais il reste 3 places maintenant qui vont se jouer seulement au mois de juin. Ça c'est les places d'urgence qu'on appelle. Et l'Ukraine, en premier, parce qu'elle est en état de guerre, on lui permet de jouer son match contre l'Écosse au mois de juin.
Ah, moi, d'accord, ok.
Alors, ça sera l'Ukraine ou l'Écosse dans le groupe européen. C'est,
oui,
tout ce qui reste comme pays d'Europe qui va pouvoir s'inscrire. Et il reste ensuite soit les Émirats Arabes Unis ou l'Australie contre le Pérou, dépendamment de ce qui va se passer dans les derniers matchs. Et le Costa Rica, sachez qu'hier, le Costa Rica a quand même gagné son match. Hein. Donc, il est à égalité avec les États-Unis, 25 points.
Allez-y.
Donc, il lui donne une chance, un ticket, contre la Nouvelle-Zélande au mois de juin. Alors, pour les amateurs de foot, toutes ces combines-là, ça doit perdre le monde. Hein. Honnêtement, là, ça doit perdre le monde normal, le commun des mortels.
Hein. Oh ouais, ouais.
Alors,
ouais.
Le Costa Rica
qui a égalité avec les États-Unis.
Oui, alors donc, il doit jouer sa chance contre la Nouvelle-Zélande au mois de juin. Alors, il y aura 3 places au mois de juin qui vont être prises. Il faudra attendre le mois de juin. Mais malgré ça, le tirage va se faire demain. Okay, parce qu'il y a 28 équipes qualifiées.
Oui.
Et le pool mondial va se faire. Donc, à partir de 11h30 demain matin, si vous voulez voir ça, c'est très intéressant pour nous. Hein. On va voir contre qui on va tomber là.
J'ai bien hâte de savoir dans quel pool sera le Canada.
Exact. Et nous sommes le chapeau 4, je vous préviens. Ils vont commencer par le chapeau 1, 2, 3. Nous, on est dans le chapeau 4.
Wow.
Okay,
ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, dans ces 28 équipes qualifiées et le tirage de demain,
oui,
il y a quand même de grands absents et de grandes surprises avec ça. L'Italie ne sera pas de la fête. La semaine dernière, je vous parlais que l'Italie jouait en direct pendant
tifosi.
Que vous parlez. Écoute, c'est de la folie. Ça fait 2 mondiaux de suite qui n'y vont pas. Ils sont traumatisés, les Italiens. C'est fini, là. Je ne sais pas ce qui leur arrive.
Myriam, j'en parlais ici. Il y a des Italiens qui ne savent même pas qu'il y a un pays qui s'appelle Macédoine du Nord.
Il faut faire attention aux pays de l'Est. Hein. Je dis,
voilà.
Quand ils sont sur un terrain, ça donne sa vie.
Et ceux qui ont battu, qui ont sorti, montré la porte de sortie à l'Italie.
Aux champions d'Europe de cette année. C'est incroyable.
C'est le monde en envers.
Alors ça, c'est la grosse surprise, hein, n'est-ce pas?
Ouais.
Ensuite, quand même en Afrique, la grosse surprise de l'Égypte avec un des meilleurs joueurs au monde, Mo Salah, qui ne seront pas là.
Il faut
le souligner.
Mmh.
La Suède et Abramovic, qui ne seront pas là. Hein, qui d'habitude, la Suède est souvent là. Elle est là. L'Algérie, avec un de ses meilleurs joueurs aussi, Mahrez, qui ne sera pas là.
Oui.
Alors, écoute, je peux vous en citer des surprises comme ça. Il y en a. Il y a un des grands joueurs avec la Finlande. Il y en a aussi avec Luis Diaz, la Colombie.
Mais Myriam,
des grands joueurs qui ne seront pas là avec leur pays.
Myriam, j'attends. Oui. Le Maroc était en tourisme face au Cameroun. C'était une vraie promenade sur la plage. Le score.
Face au Cameroun, c'est face à la République démocratique du Congo.
Oui. Quand j'ai vu le score, je me suis dit, mais ils étaient à la plage, là. Ils se sont amusés.
À 4-1, et même, on aurait pu aller jusqu'à 5-6-1.
Non, mais je me suis dit, qui a préparé ces Congolais? Ils n'ont pas été préparés, sincèrement. À cette étape de la compétition, on ne prend pas 4 buts, c'est au moins 1 but, 2-1, 1-0. Non.
C'est terrible.
Ouais,
mais
ouais.
Par contre, les 3 lions d'Afrique sont en marche vers le Qatar, il faut le souligner. Donc,
oui.
Les lions du Cameroun, les indomptables qu'on appelle.
Oui.
Les lions de la Teranga, le Sénégal.
Oui.
Non. Et les lions de l'Atlas, donc les Marocains.
Oui.
Alors, on a 3 lions qui vont nous représenter. Qui vont bouffer quelques équipes.
Ils vont rugir là-bas.
Voilà. Bon, maintenant, passons de ce mondial dont on va longuement parler d'ici novembre prochain.
Ah oui, tout le temps, on va en parler tout le temps d'ailleurs, parce que ça concerne le monde entier.
Voilà. L'équipe féminine du Canada, ton équipe favorite, Fulgence, c'est pour toi, dont je parle. Pourquoi je parle.
Oui, vas-y, je t'écoute.
Voilà. Pour la tournée des célébrations, car depuis qu'elles sont championnes olympiques, elles font une tournée des célébrations qu'on appelle, je vous en ai parlé tout au long de cet automne.
Oui.
Et ben, avec leur entraîneur-chef, Bev Priestman, elle prépare son effectif. Donc, il y a 2 prochains matchs amicaux contre, justement, des Africaines, le Nigeria. Qui se joue prochainement, donc le 8 avril, le premier match va se jouer, c'est bientôt, ça c'est la semaine prochaine.
Oui.
Leur entraîneur-chef devra non seulement récompenser les joueuses, donc elle veut faire jouer son équipe olympique, tu comprends, elles ont gagné, donc la tournée des célébrations, il faut qu'elle soit là.
Oui.
Alors, mais aussi, elle doit préparer au fait son équipe, car cet été, c'est la CONCACAF qui se joue pour l'équipe canadienne féminine. C'est le championnat féminin de la CONCACAF.
Oui.
Qui va leur permettre, bien sûr, de se qualifier pour le mondial féminin.
On leur souhaite,
l'équipe féminine. Donc, elle a sélectionné les 22 joueuses olympiques, dont bien sûr Christine Sinclair, Sophie Schmidt et Désirée Scott, mais bien sûr la jeune retraitée, notre goaler,
oui.
Stéphanie Labbé, qui va quand même jouer ses 2 derniers matchs de carrière. Elle va les jouer donc contre le Nigeria.
Oui.
Et elle a fait des recrues, donc elle amène des recrues pour voir l'alchimie avec l'équipe, tu comprends? Fait qu'elle va amener donc une nouvelle. Gardienne Sabrina D'Angelo,
oui.
Entre autres. Il y aura Alidou Danjou de Montréal qui sera là. Alors, il y aura l'attaquante Chloé Cassé, québécoise aussi. Donc, elle amène des nouvelles recrues pour créer cette alchimie à travers ces 2 matchs amicaux et se préparer au championnat de cet été.
Il faut qu'elle arrive à trouver une bonne gardienne pour remplacer la...
Et voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'elle amène cette nouvelle recrue pour voir comment elle va réagir.
C'est ça.
Alors, elle dit, Bev Priestman, elle dit, je sais que je ne vais pas pouvoir faire jouer tout le monde sur le terrain.
Non.
Mais je préfère les faire rencontrer, qu'elles participent à l'ambiance du match.
Oui.
Et donc, on les surveille le 8 avril qui va se jouer à Vancouver. Alors, maintenant, on passe au basket pour finir.
Oui.
Écoutez, je vous ai parlé de cette nouvelle équipe de Montréal dont tout le monde est excité, l'Alliance de Montréal, n'est-ce pas?
L'Alliance de Montréal.
C'est avec le loup et les 3 couleurs. Hein. C'est ça notre image sur
le logo.
Le jersey. Ouais. Que portent nos athlètes, que porteront nos athlètes. Alors, c'est le moment de former cette équipe. Alors, on a déjà 3 recrues dans notre équipe. On a eu la semaine dernière le Québécois Kémy Ossé. Alors lui, c'est un Montréalais, donc il a été le premier à signer pour l'Alliance de Montréal.
Oui.
Il présentait d'ailleurs en conférence de presse un gros sourire. Il dit « Je suis heureux, je suis de retour chez moi après 13 ans et je veux gagner tous les matchs, car chaque fois que je joue au basket, c'est pour gagner.
Oui. »
Alors il a cette espèce de lead que cherche donc l'entraîneur-chef. Ensuite, on a engagé l'Ontarien Isaiah Osborne il y a 2 jours, qui lui donc fait partie aussi de cette équipe. Isaiah Osborne, lui, l'Ontarien, il complète actuellement la saison avec la meilleure équipe de la Ligue finlandaise. Donc 6 pieds, 5 pouces, tout ça, ça fait plus de 1m90. Hein. Alors, juste pour vous dire.
1m90 sans les chaussures.
Ouais, c'est ça. Et donc hier, ils ont signé pour le moment, donc le 3e, qui cette fois-ci un Américain, et c'est Dominic Green, lui, il fait 6 pieds, 6 pouces. Donc, il joue dans la Ligue allemande. Quatrième buteur de l'Allemagne, figure-toi, celui-là.
Et il va venir à Montréal.
Il va venir à Montréal. Ils sont tous contents. Tu sais, c'est les premiers à signer dans cette équipe. Fait qu'ils sont choyés. Hein. Quand on choisit 1, 2, 3, ça veut dire que pour eux, c'est les meilleurs. Hein.
Ah oui.
Donc, l'athlète donc, va arriver ici. Alors, l'entraîneur-chef Vincent Lavandier a dit vouloir une équipe avec des leaders techniques, des leaders vocaux qui parlent dans le vestiaire pour avoir une chimie donc, dans cette équipe qui va pouvoir gagner. Selon l'avis du directeur général Joël Anthony, l'équipe devrait être compétitive dès cette saison. Il a dit, il faut s'attendre à ce qu'on fasse bien.
J'espère qu'il y a des gens qui vont quitter le NBA pour venir ici. Hein.
Voilà. Oh, alors, ouais. À noter que l'Alliance doit présenter son équipe complète pour la première fois le 16 mai prochain,
oui,
pour son camp d'entraînement. Et le premier match aura lieu le 25 mai.
Et chaque fois que tu as des nouvelles concernant cette Alliance de Montréal, n'hésite pas, tu nous en parles. Il faut nous informer pour qu'on puisse avoir l'évolution de l'équipe. C'est nouveau pour Montréal, ça. Voilà.
Oui, c'est nouveau, c'est fantastique.
Merci.
25 mai contre les Honey Badgers de Hamilton. Voilà, je finis sur ça.
Merci beaucoup, Myriam.
Avec le basket, et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine à partir de demain.
Merci.
Je voudrais dire au monde entier que c'est le mois de piété pour les musulmans, de la paix, et nous souhaitons tous la paix à la planète.
Ouais.
Alors, voilà.
Oh, oui. J'espère que ça va tomber dans les oreilles des belliqueux.
Exact.
Voilà. Merci à toi et belle fin de semaine à toi aussi.
À la prochaine fois.
À la prochaine. Bye bye. I Adèle, Easy on Me. Voilà, avant d'arriver à la petite pause publicitaire et avant de recevoir notre invité Alain Lefebvre, là il y a un nouveau livre de Daniela Ferrier, Sur la route avec Bachat, de Dani qui va paraître bientôt, là, le 5 avril, 384 pages. Bon, est-ce que c'est une brique? Pour ceux qui aiment lire, c'est pas une brique. Ceux qui n'aiment pas lire, on dit, oh, c'est 384 pages, c'est beaucoup, hein, c'est pas 1000 pages, moi j'ai dit, voilà. J'ai donc parcouru le monde pour ne retenir que ces images tremblotantes pareilles à des grains de poussière qui dansent dans la lumière du matin. À première vue, on ne voit pas le rapport entre l'auteur de l'énigme du retour et le poète japonais, d'autant qu'ils sont nés à quelques siècles d'écart. On se demande alors comment ils vont faire pour voyager ensemble. Que sont-ils? Que comptent-ils à se dire d'ailleurs? Si Bachat fait parler le paysage, la Ferrier interroge les visages et ce qui les relie, c'est d'abord le fait d'être des insulaires, de savoir danser sur une terre qui tremble et ce goût immodéré des choses minuscules. Bachat est un contemplatif qui n'hésite pas à traverser le Japon pour aller voir un coucher de soleil, alors que l'univers de la Ferrier est chaotique, urbain et oppressant. Il a déjà affirmé qu'il était écrivain japonais. Alors pour ceux qui ont presque lu les livres de Dani, on ne s'étonne pas alors qu'entre Kerouac, avec qui il partage une Amérique de vitesse, et Bachat qui va comme un escargot par les chemins étroits du nord du Japon et choisit de faire la route avec Bachat. Parution le 5 avril 2022, bien sûr. C'est un livre de 384 pages. Voilà. Et puis, cela au Salon du Livre de Québec. Le jeudi 7 de 17h à 19h, le vendredi 8 de 17h à 19h, le samedi 9 de 13h30 à 15h et de 16h à 18h, et puis le dimanche 10 avril de 11h à 13h. Alors, pour ceux qui aimeraient bien se faire dédicacer ce nouveau livre de Dani, si vous êtes dans les environs de Québec, ou bien si vous partez de Montréal, ou bien de nulle part, de quelque part ailleurs de Québec, pour vous rendre au Salon du livre de Québec, sera au stand du Boréal, allez-y, vous faire dédicacer votre copie là-bas, si vous l'avez, quand vous l'aurez, à partir du 5 avril, ce sera en Ribéry. Voilà, ouais, je l'ai dit, bon, je me suis dit, restez à l'écoute, après la petite pause publicitaire et puis la première pièce musicale, Alain Lefebvre sera avec nous pour parler de cette interprétation du concerto de Québec d'André Mathieu avec l'orchestre philharmonique et de chœur des mélomanes OPCM. Voilà, ce spectacle aura lieu ce samedi, si je ne me trompe pas, à la Maison Symphonique. Les détails un peu plus tard, après la petite pause publicitaire et après la première pièce, qui sera une pièce d'Alain Lefebvre d'ailleurs. À tout de suite.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, la pièce qu'on est en train d'écouter, c'est d'Alain Lefebvre, Amour fou, de son album, son tout dernier d'ailleurs, Opus 7. Ouais, j'ai écouté toutes les pièces, hein. C'est ce que l'on peut encore faire. Allez-vous laisser profiter de vos oreilles de ces pièces du grand pianiste. Alain, c'est un de mes pianistes préférés, ça. Il faut que je lui dise aujourd'hui. Voilà. Alain Lefebvre, c'est un grand monsieur. Hein. Il va le samedi 2. Avec la collaboration de l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, OPCM. Voilà, ils vont interpréter ensemble le Concerto de Québec d'André Mathieu à la Maison Symphonique. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la place, mais ceux qui n'ont pas encore le billet, peut-être si vous en prenez maintenant, n'hésitez pas, ça va commencer à 19h30. Allez chercher votre billet pour aller voir Alain Lefebvre avec la complicité de l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Bonjour Alain Lefebvre.
Bonjour cher ami, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Je suis très 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 honoré de vous avoir comme ça pour parler de ce spectacle dans deux jours, voilà.
Oui, là on est entre deux répétitions. J'ai fait la rencontre de ce jeune chef d'orchestre, Francis Choinière, qui je trouve vraiment d'un talent remarquable et... C'est sûr et certain que nous avons, la planète a traversé une période extrêmement douloureuse. On voit les séquelles chez les gens, cette espèce de crainte de sortir. Il y a toujours cette qu'on pourrait appeler l'épée de Damoclès.
Oui.
Mais je pense que samedi le 2, ça devrait être un concert qui fera du bien à l'âme. Enfin, je l'espère. J'espère que je serai à la hauteur.
Oui. Alain, comment est-ce que vous avez vécu cette période de pandémie, ces deux ans-là?
Moi, je l'ai trouvé difficile, je l'ai trouvé difficile principalement parce que j'ai vu l'intolérance, la haine,
oui.
Surtout sur les réseaux sociaux, j'ai vu une cristallisation des choses qui sont les moins belles chez l'être humain.
Oui.
Et je pense que, sans être un prophète et ni quelqu'un de négatif, je pense qu'il y aura des séquelles psychologiques beaucoup plus grandes qu'on le pense. Donc moi je l'ai vécu, j'étais au piano, j'ai fait mon sport, j'ai eu des centaines d'annulations.
Oui, oui.
Pour moi ça a duré 24 mois et j'ai trouvé ça difficile et je pense encore aujourd'hui, vous voyez, je suis allé à Place des Arts et là je retourne en quelques minutes,
oui.
Je vois que il y a une crainte, les gens sont craintifs, les gens, vous savez, ils ont tellement écouté les nouvelles et tout, tout le monde est un petit peu dans une période de grande sensibilité, je pense.
Oh oui, 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 et merci. Et cette collaboration avec l'Orchestre Philharmonique et le chœur, c'est votre première collaboration avec cet orchestre, avec le jeune chef d'orchestre.
C'est merveilleux.
Il est tout jeune, il n'a que 24 ans. D'ailleurs, je l'ai déjà reçu ici il y a quelques mois. Tout jeune, 24 ans. Oui. C'est la rencontre de deux générations, quoi.
Ben, écoutez, vous savez, c'est toujours fantastique de voir qu'il y a une catégorie de jeunes qui travaillent pour la beauté. Parce que, bon, vous savez, c'est un petit peu mon dada. Je crois que quand on a un certain talent, enfin bref, on a une responsabilité.
Et oui.
Je trouve que Francis Choinière, en faisant travailler des jeunes musiciens, en ayant accouché, si vous voulez, d'un jeune orchestre, je trouve ça admirable. Alors quand ils m'ont demandé, moi c'est la deuxième annulation avec eux, puisque la pandémie a eu raison de nous.
Oui.
Quand ils m'ont demandé, ben moi j'étais tout de suite d'accord et je suis de mon côté très ému de rencontrer ces jeunes et de travailler avec lui.
Et moi je profite de l'occasion pour vous dire aussi merci de ce cadeau artistique, de cette générosité artistique avec cet album Opus 7.
Ah ben Opus 7, oui, c'est Opus 7, c'est mon cœur. Ça c'est le Alain Lefebvre compositeur, je ne vais pas dire mes passions, mais c'est mon désir, si vous voulez. J'aspire à un monde meilleur. Vous savez, ouais. je veux croire que l'humanité ira vers le mieux. Hein. André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ». Et je pense qu'aujourd'hui,
oui.
on est un petit peu troublé de voir que finalement, l'humain n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là.
Ah voilà, je prends la balle au bon, Alain, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai entendu quelqu'un dire une fois, « Ah, je suis assez naïf pour croire que tout est beau, tout est bon, que tout le monde est bon. »
Oui, oui.
Est-ce que vous êtes un peu naïf quelque part sur les bois en pensant que tout est...
Non, c'est-à-dire que c'est un... C'est, non, je, malheureusement, je suis... Non, mais c'est sûr que j'aspire à croire qu'il y aura un réveil. Vous savez, comme, moi, j'ai, comme je vous disais, je suis sur les réseaux sociaux, pas parce que je veux y être, mais à cause du fait de ma compagnie Disque qui me demande d'y être.
Mm-hmm.
Donc, j'ai vu, moi, les messages qui ont été envoyés aux uns et aux autres. J'ai été complètement... pas fasciné, mais dégoûté de voir le niveau de haine et le niveau d'agressivité. Alors, je ne pense pas, si vous voulez, que l'avenir sera beau si on n'arrête pas ça. Et je pense qu'on a besoin d'amour, on a besoin de compassion.
C'est ça.
Et on a besoin de tolérance.
Oui, oui. Et quel est cet amour-là pour le concerto de Québec d'André Mathieu?
Ben c'est l'amour de cette... Vous savez, je suis un enfant, ça s'entend à mon accent, je suis un enfant des migrants.
Oui.
Alors, le Québec m'a accueilli, m'a tout donné, et je pense que être un immigrant, c'est merveilleux, mais aussi c'est un devoir, après, de redonner à la collectivité. Et André Mathieu étant un enfant du Québec, un enfant mal aimé, surtout, c'était pour moi quelque chose de très important de dire aux gens, écoutez, il y a eu ce compositeur qui était là, qui est très important, et il faudrait que vous l'écoutiez, il faudrait que vous puissiez le découvrir. Et c'est pour ça que depuis quelques décennies, ben, j'ai joué André Mathieu partout dans le monde et j'ai essayé de le défendre.
Oui, oui. Vous avez vos traces partout, de toutes les façons, célébrées d'ailleurs, pour vos prestations éblouissantes. Vous êtes passé partout, New York, Paris, Londres, Berlin, Shanghai. Vous êtes un virtuose du piano. Et quand j'ai écouté une de vos pièces il y a quelques années de cela, je dis, ça, c'est un de mes pianistes préférés.
Ah ben ça m'a beaucoup touché dans votre préambule. Écoutez, on fait, c'est un beau compliment. J'espère que j'en serai toujours à la hauteur.
Et oui, et puis le piano, vous l'avez appris à 4 ans.
Oui,
depuis l'âge de 4 ans. On va parler de ça juste après. On va écouter l'autre pièce de vous, là, de l'opus. On va écouter maintenant Force Fragile, partie 1. Thank you. Oui, Alain Lefebvre, Force Fragile, partie 1. Merci beaucoup, Alain, pour cette douceur.
Ah, ben, c'est moi qui vous remercie d'aimer cette musique, enfin, qui est toute modeste, mais enfin, bon. Voilà.
J'ai écouté toutes les pièces de l'album.
Ah, écoutez, c'est un disque qui s'est fait lentement. C'est un disque qui a été composé avec beaucoup de respect. Et je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on se parle, c'est un disque qui obtient beaucoup, beaucoup de succès à travers le monde. Et ça, ça, c'est merveilleux.
Oui. Et dans mes recherches, j'avais trouvé que d'ailleurs que vous remerciez George Nicholson, qui est l'auteur de la biographie d'André Mathieu, pour la découverte de la partition originale pour les deux pianos du concerto numéro 3.
Oui, ben oui, parce que quand moi j'ai enregistré la première fois le Concerto de Québec avec l'Orchestre symphonique de Québec, c'était la partition disponible au Centre de musique canadienne. Et après ça, bon, George Nicholson a fait une biographie, on a allié nos forces. Mm-hmm. Il a fait beaucoup, beaucoup de recherches à la bibliothèque à Ottawa et il a retrouvé cette espèce d'immense partition qu'on ne connaissait pas, qui est une partition totalement originale qui va être d'ailleurs jouée samedi soir.
Wow, les absents auront tort.
Voilà.
Ah ouais, les absents auront tort. Alain Lefebvre invite ce samedi le public à aller plonger dans les mélodies à la fois nostalgiques et fortement touchantes composées à 14 ans par ce jeune génie que fut Mathieu. Voilà.
Ben écoutez, je vous remercie Mathieu. Beaucoup de cette belle invitation dans votre émission. Et j'espère avoir le plaisir un jour de vous rencontrer.
On n'a pas fini, on a quelques minutes encore.
Oui.
Oui. Alors, quand vous avez commencé le piano, à jouer au piano à 4 ans, est-ce que vous vous êtes dit un jour, moi, je vais être sur les grandes scènes? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement avec la position ou bien la sommité que vous avez atteint, vous, André, quand vous retrouvez chez vous, devant votre miroir, dit « Ah, j'ai atteint ce que je voulais » ou bien « J'ai encore à donner ».
Oh mon Dieu, on est constamment en train d'apprendre. Hein. De toute façon, vous savez... comme dit la chanson de Jean Gabin, « Plus je sais, moins je sais ».
Oui.
Et bon, c'est sûr, à 4 ans, j'ai commencé la musique. À 5 ans, j'étais déjà sur une scène à Québec.
Oui.
Mais on n'est jamais... vous savez, pas la modestie, mais la prétention peut être très dangereuse dans notre métier. Alors, on n'est pas non plus... On essaye d'avoir une forme de confiance.
Oui.
Mais tous les jours, on apprend. On apprend qu'il faut toujours travailler, qu'il faut toujours être au sommet de son art. Et ça, c'est jamais facile.
Oui, 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 oui. Qu'est-ce que signifie la musique pour vous?
Écoutez, la musique, c'est peut-être la musique classique, entre autres.
Oui, oui.
Comme beaucoup d'autres musiques, d'ailleurs, quand elles sont bonnes.
La musique classique.
C'est une fenêtre vers les anges. C'est une voix. Vous savez, les Égyptiens, les pharaons disaient que la musique, c'était la grande consolatrice. Et je pense que le rôle principal de la musique, c'est de consoler la peine et les peines des gens. C'est ça qui est le plus important. Et surtout, comme je vous disais en début d'entrevue, surtout aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de ça. Alors j'ai l'impression que ce concert samedi va peut-être faire du bien aux gens.
Oui, oui, oui. Alors pour ceux, je sais qu'il est en pleine préparation, je vais pas le garder pour.
Non, c'est parce que non, écoutez, je resterai avec vous des heures.
Ah ouais.
Je repars en répétition. Mon Dieu, écoutez, c'est pas le bonheur d'être avec vous, j'ai une première répétition, j'en ai une tout de suite maintenant.
Oh oui.
Et écoutez, on est dans une période parce que demain finalement il y aura pas de répétition. Les répétitions sont aujourd'hui. Samedi, ce sera la générale.
Oui.
Et le soir, c'est le concert. Mais je voulais absolument faire l'entrevue avec vous.
Jean. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Lefebvre. Et puis, bon, je vais parler de votre, d'ailleurs, je vais donner les différentes dates de votre tournée 12 concerts au Québec du 2 avril au 8 mai. J'ai la programmation avec moi ici. Donc, je vais parler de ça pour les minutes qui nous restent.
Vous êtes plus que charmant et merci encore de m'avoir accordé ce temps, monsieur.
Merci beaucoup, Alain Lefebvre. Merci.
Allez, je vous embrasse. Au revoir.
Moi aussi. Au revoir.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for.
Qui on vient d'écouter Charlie Puth avec la complicité de Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. J'ai dit merci encore au grand pianiste compositeur Alain Lefebvre qui va interpréter avec l'orchestre philharmonique et chœur des mélomanes au PCM le concerto de Québec d'André Mathieu. À la Maison Symphonique, ça va se passer le samedi après-demain, là, à 19h30. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, mais ceux qui veulent aller voir, écouter Alain et l'orchestre, et l'OPCM, l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, dirigé par le jeune, directeur artistique, chef d'orchestre, Francis Chouanière. Francis que j'ai reçu déjà ici deux fois à cette émission, à d'autres émissions, mais sur les ondes de Canal M. Bien sûr, lui aussi, il a son avenir. C'est lui qui est le directeur artistique de l'OPCM. Voilà, donc ces deux valeurs, deux univers différents qui se rencontrent, deux rencontres de deux générations, disons, la génération d'Alain et la génération de Francis, tout jeune, 24 ans, qui est directeur artistique, qui a créé d'ailleurs cet orchestre, d'ailleurs, pour permettre aux jeunes, à la relève, de se retrouver et de faire carrière. C'est ce qu'il nous a laissé entendre d'ailleurs quand il était passé ici, sur les ondes de Canal M. Alors, je vais donner l'emploi du temps d'Alain Lefebvre. Il a 12 concerts bientôt, là, du 2 avril au 8 mai. Maison Symphonique, Montréal, 2 avril. Voilà, c'est de ça qu'on venait de parler. Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme, le 7 avril. Et puis Théâtre Granada à Sherbrooke, le 8 avril. Salle Pauline Julien à Sainte-Geneviève, le 10 avril. N'hésitez pas. Et puis théâtre Télébec à Val d'Or le 13 avril. Et puis, quoi encore, théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda le 14 avril. Et théâtre Le Patriote au Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais, ça va être le 16 avril. Et puis théâtre du Vieux Terrebonne, ça va être le 30 avril, toujours à Terrebonne. Ça, c'est à Terrebonne, ça, oui, le 30 avril. Et puis, salle du Sceau, Thetford Mines, le 1er mai. Et centre des Arts Juliette, la Sonde à Saint-Hyacinthe, le 5 mai. Et puis, Palais Montcalm, c'est ça, à Québec, le 7 mai. Et salle Albert Dumouchel, Salaberry de Valleyfield, le 8 mai. Et alors, allez-y, tapez là-bas, Alain Lefebvre, vous allez trouver toute la programmation là-bas sur le web. Et si vous voulez aller découvrir ce concerto de Québec d'André Mathieu avec l'orchestre symphonique et chœur des mélomanes OPCM, dirigé par le jeune directeur artistique Francis Joinière. Alors, n'hésitez pas, allez-y, profitez de ça le samedi là. Et puis bon, ben, pour ceux qui sont en région, les dates sont données. Là, il sera, je pense bien qu'il sera en solo là-bas, si je ne me trompe pas, ou bien peut-être qu'il va se faire accompagner par d'autres artistes. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Alors, je pense bien que on a encore une minute, là. Je te dis merci, Nicolas. Je te regarde, j'ai vu ton doigt en l'air. Il a encore une minute. Merci à toi pour toute la semaine. Et je dis merci aussi à Catherine Bourderon. Oui, je dis merci à... C'est la recherchiste de l'émission. Je dis merci à Myriam Larache et aux autres chroniqueurs qui sont passés dans la semaine. Et je dis merci à qui ? Voilà, à tous les autres collègues ici et à nos fidèles auditeurs. On se retrouve demain. Et toi, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et moi, je vous retrouve, chers auditeurs, auditrices, demain à la même, sur les ondes de Canal N. Et je vous dis ciao.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis le liqueur.
Et surtout, à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.